Média.
Média. Podcast.
Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Merci infiniment d'être avec moi sur les ondes de Média dans Femmes d'aujourd'hui. Et dans les femmes d'aujourd'hui, eh bien, il y a différents parcours de vie, différents combats, différentes réussites. Et différents échecs aussi. Le problème de la tutelle. La tutelle, lorsque le souci de la tutelle des enfants, lorsqu'il y a divorce, eh bien, beaucoup de couples en souffrent, beaucoup de couples séparés en souffrent et beaucoup d'enfants aussi. Un mouvement citoyen est né. Parmi les leaders de ce mouvement, il y a ma femme d'aujourd'hui.
Média 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Yasmina Rouham, merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Yasmina?
Ça va très bien et merci à vous. Merci de porter intérêt à ce sujet et merci de m'avoir contactée.
Eh bien, c'est un plaisir de vous avoir. Alors vous avez fondé avec d'autres personnes il y a quelques temps déjà, quelques mois déjà, un mouvement qui porte le nom Bderija Kif Mama Kif Baba. Et là, on a envie de savoir qui est cette personne derrière ce mouvement et pourquoi ce mouvement. Alors, qui est Yasmina Rouham?
Alors, je suis une jeune simple maman, j'ai 30 ans, je suis maman d'une petite fille qui a bientôt 5 ans. Donc voilà, je travaille dans le milieu éducatif et puis voilà.
Alors justement, Yasmina, votre projet à vous, votre mouvement à vous, c'est de défendre justement cette idée que... de combattre plutôt cette idée que la tutelle du père, même si la mère garde à la garde après un divorce, il faut que cette notion de tutelle tombe. C'est bien ça?
Alors, en fait, justement, ce n'est pas spécifique au divorce. C'est beaucoup plus général. C'est-à-dire que le problème, c'est qu'en tant que maman, tout court, divorcée, pas divorcée, veuve, peu importe, veuve, on a quand même heureusement la tutelle. C'est-à-dire que par définition, étant maman, on est seulement la génitrice, on a seulement des obligations de garde, c'est-à-dire on est obligé de prendre soin de notre enfant. C'est dans le code de la famille, on peut être poursuivi pour maltraitance, pour manquement, ou pour négligence. Alors que de l'autre côté, lorsqu'il s'agit de droit, c'est-à-dire avoir le droit de, par exemple, épargner pour son enfant, lui léguer un bien. Là, pour toutes ces choses-là, au niveau de la législation, on n'a pas le droit, on ne sommes pas les tutrices légales de notre enfant. Donc forcément, ça se sent lorsqu'il y a un cas de divorce, parce que du coup, on n'est plus d'accord, mais il faut se rendre compte qu'on n'est pas tutrice dès le moment où on accouche de notre enfant. Et le problème, c'est qu'on le subit sans le savoir, c'est-à-dire que c'est tellement normal qu'on ne s'en rend pas compte. Et moi, je me rappelle lorsque j'étais à la clinique, lorsque je venais d'accoucher, il fallait en fait procéder à un test de dépistage pour certaines maladies, je ne m'en souviens pas, mais je n'avais pas le droit de le faire, je ne comptais pas pour l'équipe médicale parce qu'il fallait que mon mari, qui n'était pas sur place, vienne signer le papier pour les autoriser à prélever du sang pour faire cette analyse. Sur le bébé.
D'accord, ça va aussi loin que ça.
Oui, oui, c'est des analyses qui sont les premières heures après la naissance. Et on ne peut pas les faire parce qu'il n'y a pas le papa pour décider si oui ou non on les fait. Qui est le tuteur légal. Donc... alors que là, moi, je suis dans mon lit d'hôpital. On vient de me couper le ventre en deux pour sortir ma fille. Je suis là. Mais non, ça ne compte pas.
Et vous l'avez vécu comment, ça?
Au début, je réalisais pas. Je ne comprenais pas pourquoi. Je ne savais même pas que je n'étais pas tutrice de ma fille. Je pensais que ça allait de soi, que c'était naturel. Mais en fait, non.
Donc en fait, ce que vous me dites, Yasmina, c'est que par rapport même à la santé de nos enfants, on ne peut pas prendre de décision.
Par expérience, non. Après, par la suite, j'imagine bien qu'on peut les emmener chez. Mais il me semble même pour les opérations, il faut une autorisation du tuteur légal, ce qui est normal pour opérer quelqu'un, un mineur. Tout ce qui est en relation avec un mineur, il faut l'autorisation d'un tuteur légal, c'est normal.
Mais
le truc, c'est que la maman n'est jamais la tutrice légale.
Légale, à moins d'être veuve.
Voilà.
C'est ça.
Et après, encore, il y a des cas où je sais pas, la belle famille peut mettre en cause sa légitimité à être tutrice, démontrer qu'elle a, je sais pas, de mauvaises mœurs ou autre, et puis justement lui retirer la garde, la tutelle.
Et la garde aussi. Alors vous êtes mariée. Oui. Vous avez une petite fille, mais qu'est-ce qui vous a poussé justement à vous engager auprès de ceux aussi qui divorcent et qui souffrent de cette situation ? Parce qu'on peut se dire, oui, bon, elle n'est pas concernée.
Justement, je suis concernée. C'est ça le truc.
Ouais. On est toutes concernées. On ne s'en rend pas compte en quelque sorte.
Quand je veux récupérer le passeport à ma fille, je suis concernée aussi parce que je n'ai pas le droit de le récupérer. Bon, après, ce n'est pas très grave parce qu'il y a mon mari à côté qui peut le faire si je lui demande. Mais
on ne sait pas de quoi demain sera fait.
Exactement. Et puis, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et je ne sais pas si ça va être le cas de ma fille aussi. J'ai une petite fille qui vit au Maroc et qui... ma mère, elle est choquée que ça se fasse encore. Elle pensait qu'en une génération, ça allait se régler. Mais voilà, 30 ans plus tard, je suis là et on est toujours en infériorité dans ces choses-là. Mmh. Alors que pourtant, on travaille pareil, on fait les mêmes études, on paye des impôts de la même manière. Exactement, même si on est tout petit à l'école, on est noté sur le même barème. Il n'y a pas de barème différent pour les petites filles, un autre pour les garçons. On est jugé pour les mêmes compétences et pour les mêmes résultats lorsqu'on intègre des sociétés. On nous prélève le même pourcentage d'impôts. Et donc, à un moment où on arrive à l'institution de la famille, on devient uniquement des utérus.
Ouais, des génitrices.
Voilà. Après, c'est terrible en fait. Lorsqu'on a créé la page et qu'on a commencé à recueillir les témoignages, mais ça va très loin. Ça va jusqu'à, par exemple, même pour lorsque, je sais pas, il y avait une maman qui m'avait écrit pour me dire qu'elle faisait une fausse couche, mais qu'il fallait donc procéder au curetage en clinique, et elle avait besoin d'autorisation de papa.
D'accord.
Donc, elle était souffrante, c'est-à-dire que c'était un cas critique, mais non, elle avait besoin de... Après, il y avait des cas où la petite avait été malade, qu'elle devait se faire soigner en France, mais le papa refusait de donner l'autorisation de quitter le territoire.
Parce que les parents étaient divorcés.
Voilà.
Alors, c'est quoi le chemin, justement, pour... qu'est-ce qu'il faut faire ? Où est le problème ?
Alors, déjà, il y a un problème de... les gens ne le savent pas ou ne se sentent pas. Enfin, les femmes ne se sentent pas concernées. Seulement celles qui divorcent se sentent concernées parce qu'elles le vivent plus concrètement.
C'est pour ça que je vous ai posé cette question, vraiment à la limite de la naïveté. Mais vous n'êtes pas divorcée. En quoi êtes-vous concernée ?
En tant que femme marocaine.
En tant que femme marocaine, absolument, c'est ça. Et ça, on ne réalise pas.
Sur nous sommes trois derrière le mouvement, on est deux mariés et une seule est divorcée.
D'accord.
Donc, comme quoi, ça concerne un peu tout le monde.
Et les hommes, vous avez des hommes avec vous dans votre mouvement ? Votre mari, il en pense quoi, justement ?
Il est d'accord. il est tout aussi révolté que moi.
Ouais, parce qu'il se dit aussi, j'ai une fille. Au-delà de mon épouse, mais j'ai aussi une fille. Et si on ne fait pas bouger les choses, ma fille aussi risque d'être dans la même situation.
Exactement.
Vous l'avez dit.
On a des papas aussi qui en souffrent de cette situation, l'inégalité en matière de tutelle et de garde. On a des papas qui se retrouvent de situation de papa en famille, chez eux, à n'avoir le droit de voir ses enfants que 4 heures par semaine, tous les dimanches.
Mais j'ai l'impression que cette situation est quand même très rare, par rapport à l'inverse, en fait. Par rapport à l'inverse, à l'opposé, par rapport à toutes ces histoires où c'est plutôt la femme, l'ex-femme, qui souffre du divorce et de la séparation. Moi, j'ai l'impression qu'il doit y avoir des hommes, comme vous dites, qui souffrent aussi de ça. Mais bon, en pourcentage, je pense que c'est très rare, non ?
Oui, c'est vrai.
Alors, par exemple, justement, ces hommes-là qui souffrent aussi du comportement de leur ex-femme, c'est quoi le contexte en général ?
Le contexte, en fait, c'est que la loi, en fait, on va dire qu'elle permet...
Il y a beaucoup de bruit autour, Yasmine. Il y a des enfants...
Je travaille dans une école, donc je suis désolée.
Il n'y a pas de souci.
Et lorsqu'un couple divorce, forcément, c'est pas un bon entente, un bon entente, sinon ça divorce pas un couple. Et puis voilà. Et puis donc la loi qui est incomplète, qui change pas depuis une vingtaine d'années, forcément, elle laisse place à ce que des personnes qui sont pas forcément mal intentionnées ou de mauvaise foi ou de mauvaises personnes céder à ce désir de vengeance, de manipulation et donc essayer de profiter des failles de la loi. Mmh.
Alors, pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est un chantier, on l'attaque par étapes.
Alors, pour moi, il faudrait déjà commencer à penser le code de la famille dans une perspective... qui va tourner vers l'enfant, c'est-à-dire qu'on pense à l'intérêt de l'enfant en premier. Mmh. Et donc, de là, après, je pense que le travail à faire devient de plus en plus évident. C'est-à-dire qu'un enfant a besoin de stabilité, un enfant a besoin qu'on soit d'intermédiation entre ses deux parents, il a besoin de ses deux parents aussi. Donc voilà, je pense que si justement le code de la famille se situait dans cette perspective, les choses seraient plus faciles et plus faciles à vivre au quotidien. Il faudrait déjà, je pense aussi, dans un tout premier temps en parler, c'est ce que tu fais depuis le début et je t'en remercie. Il faudrait essayer de faire, on va dire d'éveiller
les consciences.
Exactement, que tout le monde puisse s'en rendre compte déjà, qu'on commence à en parler, que du coup, le besoin de changer puisse se ressentir. Parce que si celles qui sont concernées n'en parlent pas, ne se plaignent pas, forcément, il n'y aura pas de résultat. Mmh.
Mais alors justement, vous en êtes où dénoncé, oui, à travers les médias, c'est bien. Mais est-ce que vous en êtes aussi à des discussions? Parce qu'on entend parler de plus en plus d'un éventuel changement de la Moudouana. C'est le code de la famille qui a transformé justement la vie de beaucoup de femmes mm-hmm. au Maroc en 2004. Ça a été une révolution dans le monde arabe. Aujourd'hui, pratiquement 20 ans après, on a assez de recul pour voir qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui marche un peu moins. Et ce un peu moins, c'est ça qui a changé. Vous en êtes où aussi dans les discussions avec ceux qui changent la loi, tout simplement?
Alors, on n'y est pas encore par manque de réseau, de contact. J'en profite justement pour lancer un appel. Pour tous ceux qui travaillent dans ce... On a déjà été en contact avec l'ATEC qui fait un boulot extraordinaire. Et donc voilà, on aimerait bien avoir plus d'aide, plus de visibilité au niveau des associations et tout ça. On n'est pas encore une association, on n'est qu'un mouvement citoyen. Et donc forcément, on manque d'encadrement, d'outils. Donc c'est un appel que je fais à travers toi pour dire aux gens qui peuvent nous aider, nous tenir la main de le faire.
Alors, dans ce mouvement, est-ce que vous avez aussi avec vous des enfants qui ont eux-mêmes souffert de cette situation ?
Alors,
qui sont aujourd'hui des jeunes adultes ?
Alors, pas exactement. Enfin, pas dans le mouvement, c'est-à-dire pas dans la communauté, on va dire que oui.
Oui.
On a des adultes aujourd'hui qui regrettent cette situation parce qu'ils ont dû manquer, par exemple, plusieurs opportunités, que ce soit des opportunités d'études ou d'immigration parce que justement les parents étaient en froid et que le papa profitait de sa position de pouvoir avec son papier d'autorité, avec sa tutelle. On a aussi des cas où le papa en profitait pour extorquer de l'argent à la maman. Donc à chaque fois qu'elle voulait emmener les enfants en voyage, c'était en contrepartie d'une somme d'argent pour avoir l'autorisation. Et puis voilà, donc ça c'est des adultes qui justement ont démontré leur témoin à travers nos réseaux sociaux.
Mmh. Yasmina Rouham, merci beaucoup d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Merci à vous, merci d'en parler. C'est pas la première fois qu'on en discute et puis merci beaucoup pour la visibilité que tu nous as offert.
Avec grand plaisir. Et on reste ensemble. On a encore du temps à passer ensemble dans ce rendez-vous de femmes d'aujourd'hui. Et ça me rappelle, en fait, la discussion avec Yasmina me rappelle l'échange que j'ai eu au tout début de cette saison, au tout début de femmes d'aujourd'hui, avec une avocate, militante et maman aussi, avocate qui elle-même souffre de cette problématique de la tutelle et ses répercussions sur ses enfants. Je vous propose de revenir sur une interview qui a été réalisée en septembre dernier avec Maître Khadija Amarani, la femme et la mère. Alors justement, aujourd'hui, vous êtes une militante, vous êtes une avocate en droit des affaires, mais vous êtes également une militante pour les droits de la famille. Oui. Et ça, ce n'est pas venu par hasard, vous l'avez vécu dans votre chair.
Oui, tout à fait.
Vous faites, Khadija, un premier mariage qui ne marche pas.
Exactement. Voilà, un premier mariage qui ne marche pas, comme ça peut arriver. Et donc voilà, qui se solde par un divorce en 2012. Et voilà, un divorce avec deux enfants. Et bon, par la suite, trois années après, je décide de refaire ma vie. Et donc, je me marie. Je me marie en sachant que la loi ferait en sorte que je perdrai la garde. Donc, je me marie en connaissance de cause. Je sais que la loi est contre moi, que voilà, l'article 173 de la Mudawana prévoit que je perds la garde si je me remarie. Mais je garde un grand espoir à ce moment-là. Je me dis, voilà, je vais utiliser cet article. Il prévoit que si j'arrive à prouver que l'intérêt des enfants est dans la garde partagée, enfin, est avec moi, si l'intérêt des enfants est avec moi, bah, je pourrais peut-être gagner mon dossier. Donc, j'ai cet espoir. Hein, je me dis, voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, je pars avec cet espoir. Je me remarie. En 2015, je démarre un procès. Donc dans lequel je perds la garde en le 7 avril 2016, en première instance. Ça passe en appel, je repère la garde en appel, bien que j'ai prouvé que par le biais de psychiatres que l'intérêt des enfants nécessite la présence de leurs deux parents. La justice n'a pas accordé d'importance à ces preuves et donc a jugé de façon robotique. L'article prévoit que la femme qui se remarie perd la garde. Très bien, ben on applique cet article. J'ai été déchue de la garde en première instance et en appel. Donc, en février 2018, il y a eu une exécution de l'arrêt de la cour d'appel. Donc forcément, les enfants ont été transférés au papa. Et donc, je demande à ce moment-là un droit de visite. Et on me donne le dimanche de 10h du matin jusqu'à 6h d'après-midi. Ce que j'ai trouvé extrêmement injuste. Et à partir de là, donc je démarre un travail immense, un travail à la fois juridique et spirituel, parce qu'il faut le dire, c'est très puissant quand on est touché dans sa chair, quand on doit faire un choix entre sa féminité et sa maternité, parce que c'est un petit peu ça. C'est comme ça que je l'ai vécu. J'ai vécu comme si on me disait, ben, tu veux vivre ta féminité, très bien, ben, on te retire ta maternité. J'ai trouvé ça d'une injustice énorme. Énorme. Alors que, pour moi, dans ma tête, la logique, ma logique me disait qu'on pouvait être dans une garde partagée si la justice m'avait enlevé la moitié de la garde, c'est-à-dire si la justice m'avait donné une semaine et le papa une semaine, j'aurais trouvé vraiment que la parité aurait été respectée dans le sens de la logique universelle et de la logique, j'imagine, de toutes les logiques. Hein.
Certains auditeurs pourraient se dire, mais elle a joué avec le feu. C'est une femme de loi, c'est une avocate. Elle connaissait la loi et pourtant elle a joué avec.
Non, mais la loi, vous allez voir, l'article 175, il prévoit les cas où on ne perd pas la garde. Et les cas, c'est vrai que je rentrais dans un seul cas, et c'est ce que je vous ai dit, c'est on ne perd pas la garde lorsque l'enfant a moins de 7 ans, on ne perd pas la garde lorsque l'enfant est handicapé, donc je ne rentrais pas dans ces schémas, on ne perd pas la garde lorsqu'on prouve que l'enfant risque de subir un très grand préjudice de par la séparation avec sa mère. C'est écrit noir sur blanc dans la loi. Donc moi, je suis partie sur cet article, l'article 175, d'accord, qui dit les cas où je ne perdrai pas la garde, ou bien si je m'étais mariée avec un cousin aussi, un cousin à moi, à ce moment-là, je ne perds pas la garde. Bon, je rentrais dans aucune case, à part le seul cas où je trouvais que les enfants, bien sûr, subiraient un préjudice. Et je l'ai fait, j'ai prouvé, par des attestations psychiatriques, que les enfants subiraient un préjudice. Mais la justice a décidé, elle a dit, même si vous avez prouvé que les enfants subiraient un préjudice, on applique l'article 173 qui vous enlève la garde. Et d'ailleurs, ils ont écrit par rapport à cette question de préjudice, ils ont dit « tarar l'ihtimal ». Vous avez pris, vous parlez d'un préjudice éventuel.
Exact.
Éventuel. Donc, pour eux, un préjudice éventuel. Mais comment je vais faire, moi, si j'applique la loi? La loi m'a dit qu'il faut prouver un préjudice. Très bien, ben, un préjudice éventuel. Donc, d'où l'idée de créer une association, parce qu'il n'y a pas de loi organique qui permet de recourir à la Cour constitutionnelle pour parler de l'inconstitutionnalité, pour revendiquer l'inconstitutionnalité de cette loi, donc qui m'a enlevé la garde, l'article 173 de la Mudawana. Donc forcément, le seul choix que j'avais en face de moi, c'était de militer pour sensibiliser la société civile et pour ramener la société civile à comprendre qu'il y a une injustice qui est légale, qui doit être réparée et qui n'est même plus constitutionnelle, que l'article 173 n'est même plus constitutionnel. Et d'où l'importance aujourd'hui de faire un travail important et de sensibilisation, parce qu'aujourd'hui, nous, ce qu'on demande, on demande la parité totale. Vous savez, on est là, dans le cadre de l'association, on a beaucoup d'hommes aussi, parce que même les hommes subissent un immense préjudice. Vous imaginez quand il y a un divorce et qu'on leur donne que le dimanche. Moi, si j'étais un homme, j'aurais été militante pour les hommes. Mais franchement, croyez-moi, ce n'est pas un coup, c'est inadmissible. Je trouve ça criminel. En tant que père, si j'étais un père, je trouve ça criminel de me donner un dimanche. Pour moi, c'est une sanction énorme. Alors que logiquement, les enfants devraient passer au moins 2 nuits par semaine chez leur père.
Merci à toutes et à tous pour votre confiance. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, surtout de retrouver mes femmes marocaines battantes, extraordinaires, du lundi au vendredi de 9h à 9h30. Et bien sûr, chaque épisode est toujours en avant-première, à la demande, à n'importe quel moment, sur Média Podcast. Très très bonne suite des programmes à toutes et à tous.